Chapitre 30. De la gadoue jusqu'aux genoux, la peau couverte de piqûres d'insectes et d'immondices diverses, Adessa dégaina son couteau pour couper une liane hérissée d'épines qui lui barrait le passage. À l'endroit où elle trancha, les épines se rétractèrent et une sève épaisse comme du sang coula de la plaie. Depuis trop longtemps, des menaces et des obstacles absurdes l'empêchaient de rejoindre sa véritable proie, le sorcier en chef, Maxime. Une autre liane se détendit comme la lanière d'un fouet. Sur les épines, des gouttes de venin brillaient comme des larmes. Un tentacule végétal s'enroulant autour de son bras gauche, Adessa s'empressa de le couper. Comme un reptile, il ondula lorsqu'il s'écrasa sur le sol, puis mourut en quelques secondes. Baissant les yeux sur son bras, Adessa vit que la peau était déjà rouge. Sans l'ombre d'une hésitation, elle entailla la chair avec sa lame afin de faire saigner la petite blessure. Pour plus de sécurité, elle la pressa, histoire de la vider de tout venin. Le couteau rengainé, elle utilisa son épée pour se débarrasser des lianes suivantes et reprit son chemin dès que ce fut fait. Depuis le début de sa traque, la Moracite n'était entrée qu'une seule fois en contact avec Maxime. Après l'avoir déconcentré avec sa magie, le sorcier s'était enfui pendant qu'elle affrontait un binôme de dragons des marais. De vrais pots de colle, cela. Pour s'en débarrasser, il lui avait fallu une bonne heure. Autant d'avance prise par Maxime. Averti que Thora avait lancé à ses trousses la meilleure Moracite d'Ildakar, il serait sur ses gardes, compliquant la tâche de son exécutrice. Tandis qu'elle cherchait à retrouver la piste du fugitif, Adessa se demanda ce que faisaient ses sœurs à Ildakar. Logiquement, elle avait dû mater les rebelles et sauver la Sovréna. Leur faisant une confiance aveugle, Adessa se focalisa de nouveau sur sa traque. Une fois la tête de Maxime au pied de Thora, elle recommencerait à se soucier de sa ville. Attentive à une autre attaque de liane, elle continua d'avancer, étudiant la moindre brindille cassée et la plus fine empreinte dans la boue. Avec tous les malheurs qui l'avaient ralenti, Maxime devait avoir au minimum une journée d'avance sur elle. Par bonheur, ce puissant sorcier ne valait pas tripette quand il s'agissait d'effacer ses traces. À la chiche lueur qui filtrait de la frondaison, Adessa se rappela à la prudence. Son mépris pour Maxime ne devait pas l'inciter à commettre des erreurs. La veille, trop confiante, elle avait suivi la mauvaise piste et traqué ce qui s'était révélé être un jeune ours noir en maraude. Comprenant que Maxime était parti dans une toute autre direction, elle avait dû rebrousser chemin, d'autres précieuses heures perdues. Les yeux rivés sur le sol, elle progressait régulièrement, tous les sens aux aguets pour éviter de tomber dans un piège tendu par des dragons ou de subir une nouvelle attaque de liane. Depuis toujours, Maxime lui semblait affreusement arrogant. En tout cas, il ne témoignait pas assez de respect à Ildakar. Rien d'étonnant puisqu'il était en secret, masque miroir, le responsable des émeutes qui avaient dévasté la ville. Un crime pareil, ça ne faisait aucun doute, méritait la peine de mort. Né des siècles après l'activation du linceul de l'éternité, Adessa ne vivait que pour Ildakar. En grandissant, elle avait entendu parler d'une formidable menace extérieure. Mais jusque-là, à part la récente révolte, elle n'avait jamais été confrontée à un réel danger. Adolescente, elle avait fait montre d'un grand talent pour les jeux violents que les nobles adoraient regarder pour se divertir. Sa réputation parlant en sa faveur, elle avait été recrutée par trois Moracites. Un beau jour, ces femmes étaient venues voir ses parents pour leur proposer une jolie somme sortie du trésor d'Ildakar. En plus de cet argument, elles avaient convaincu toute la famille qu'être enrôlé ainsi était un formidable honneur, le plus grand, selon elles, qu'Ildakar pouvait faire à quelqu'un. Immédiatement convertie, Adessa avait promis de devenir la plus grande Moracite de l'histoire, mais son père l'avait ramenée à plus de modestie.
« La meilleure, ce n'est pas indispensable. Être une Moracite suffit en soi. »
Avec d'autres filles de son âge, Adessa avait suivi un entraînement rigoureux. Dès le premier jour, elle avait cru en mourir de fatigue. Au début, les nouvelles recrues avaient eu le réflexe de faire corps. Bien entendu, ça n'avait pas duré. Lorsqu'elle les voyait se battre sans conviction, retenant leurs coups pour ne pas blesser une amie, des Moracites intervenaient, massues au poing, et flanquaient une dérouillée aux coupables. Après une ou deux roustes de ce genre, on comprenait vite. Enfin, en règle générale. La première semaine, deux filles trop gentilles étaient mortes. Le deuxième mois, Adessa avait dû tuer une gamine qui tentait de se rapprocher d'elle pour dissimuler sa profonde faiblesse. Après cette exécution, Adessa avait reçu sa première rune de défense sur le haut du bras et au fer rouge, bien entendu. Autour d'elle, des Morassites impassibles l'encourageaient du regard tandis que leur chef saisissait un fer incandescent. Les dents serrées, Adessa s'était raidie pour faire face à la douleur. Un seul cri, et elle aurait écopé d'une punition. Elle s'était crue prête, mais rien n'aurait pu la préparer à la souffrance qui avait vrillé ses nerfs, remontant de son bras jusqu'à son cerveau. Pourtant, elle n'avait pas lâché un son, imperturbable même quand une odeur de viande grillée était montée à ses narines. L'officiante ayant fait aussi vite que possible, quelqu'un avait aussitôt vidé sur le bras d'Adessa un seau d'eau froide. Une autre Morassite, sans ménagement, lui avait essuyé les yeux pour en chasser d'éventuelles larmes. « C'est bien !» avait dit l'officiante en reposant le fer dans un brasero. « Tu peux t'évanouir maintenant. » Adessa ne se l'était pas fait dire deux fois. Au fil des ans, le rituel n'était pas devenu plus supportable. Pourtant, elle n'avait jamais crié, pleuré ou défailli. Aujourd'hui, sa peau était une véritable œuvre d'art. Beaucoup plus important encore, pas un seul pouce carré n'était vulnérable à un assaut magique. Adessa se rengorgeait d'appartenir à une sororité aux antiques traditions. Selon de très anciennes légendes, des Morassites étaient un jour partis pour le Nord afin de louer leurs services aux plus offrants. Si c'était vrai et si elles avaient laissé un héritage jusqu'à aujourd'hui, leur descendance avait dû beaucoup évoluer. Les Morassites d'Ildakar, elles, ne changeraient jamais. À la nuit tombée, quand suivre une piste devint impossible, Adessa trouva un endroit où camper, au pied d'un grand tronc sous une multitude de filaments de mousse. S'autorisant à somnoler, elle resta cependant à l'affût de tout son qui aurait pu annoncer l'imminence d'une menace. Captant un bruissement dans l'herbe, elle ouvrit les yeux et repéra très vite le serpent au corps aussi gros que sa cuisse qui glissait vers elle. Quand il se darda pour attaquer, le reptile ne dévoila pas une mais trois énormes gueules qui goûtaient l'air du bout de leur longue langue noire. Dotées d'un seul œil chacun, elles étaient en revanche copieusement garnies de crocs. Adessa se prépara au combat. Avec une tête ou trois, un serpent restait un serpent. Certainement pas de quoi mourir de peur. La tête du milieu attaqua la première. Se jetant sur un côté, Adessa esquiva l'assaut et dans le même mouvement frappa avec son épée. Coupée net, la tête tomba dans la mousse dans un geyser de sang noir. Les deux autres passèrent à l'offensive. Pour les y aider, le grand corps de la créature se redressa, offrant une cible à la Morassite. Vive et précise, elle frappa à l'horizontale juste au-dessous des deux gueules, puis abattit son arme à la verticale, fendant en deux le corps du reptile. Sur la mousse, pas encore consciente d'être morte, les deux têtes continuèrent à tenter de mordre. Sans leur accorder d'importance, Adessa enfonça sa lame jusqu'à ce qu'elle coupe en deux le cœur du serpent. Couverte d'un sang noir et glacé, Adessa grimaça de dégoût. Il ne manquait plus que ça pour la rendre répugnante. Stoïque, elle haussa les épaules puis se pencha pour se couper un gros morceau de chair encore palpitante. Même crue, la viande de serpent était très nourrissante. Tout en mâchant, la Morassite alla se rasseoir sous son tronc. Dans ses entrailles, elle sentait toujours la magie de l'enfant qui ne naîtrait jamais. Un pouvoir qui augmentait sa force et amplifiait ses sens. Ce soutien, elle en bénéficierait jusqu'à ce qu'elle ait coincé et tué Maxime. Ça ne l'autorisait pas pour autant à jeûner. Au contraire, pour rester forte, elle devait manger et boire en quantité suffisante. Au fil des siècles, elle avait couvert d'injures les gladiateurs qui négligeaient leur corps. Pour elle, ces hommes n'étaient pas des esclaves, mais des animaux de compagnie, et à ce titre, il fallait les dresser. Dans la pénombre, le ventre plein, elle repensa aux champions qu'elle avait formés et aux amants qu'elle avait récompensés. À la fin de leur formation, ces hommes lui appartenaient corps et âme, fidèles même quand elle les envoyait crever dans l'arène. Capturés par les Norokai alors qu'ils étaient très jeunes ou fils d'esclaves d'Ildakar, ces gladiateurs au fond n'avaient pas d'autre famille que les Morassites. Son dernier champion et amant en date, Yann, était un garçon loyal qui ne l'avait jamais déçu. Sauf à la fin, quand ce fichu Bannon l'avait incité à se souvenir de son passé. Alors qu'il avait tout d'un jeune sot, cet étranger avait miné le sens du devoir de Yann. Du coup, le champion avait fini par se retourner contre Adessa. Quelle erreur avait-elle commise avec lui? Au lit, elle lui avait fait découvrir la véritable passion, celle d'un animal en rute que rien n'arrête. Au moment suprême de leurs étreintes, il s'évanouissait presque de jouissance. Contrairement à ses habitudes, Adessa s'était même attachée à lui. Après l'amour, au lieu de le rejeter, il lui était arrivé plus d'une fois de le serrer contre elle, comme si elle voulait prolonger leur union. Enfin, elle avait laissé planter en elle la graine de la vie. Une part d'elle-même qui n'était pas elle-même et qu'elle sentait grandir chaque jour. Sans les émeutes, elle aurait donné le jour à l'enfant de Yann. Mais ce chien l'avait trahi, la forçant à le tuer. Du coup, une vie innocente avait été transformée en une précieuse source de puissance. En plus des runes, la magie du sang, celle d'un enfant qui n'existerait jamais, la protégeait. C'était aussi fort que la mort d'un esclave sur la pyramide. En elle, la femme avait donné la vie, et la Morassit l'avait reprise. Alors que les heures passaient, la lune se faisant attendre, Adessa sonda le vide dans ses entrailles, puis le compara à l'énergie qui circulait dans ses muscles. Quand l'astre de la nuit apparut enfin, l'inondant de sa lumière, elle se leva et se remit en chasse.